Isabelle Fontaine, de retour avec nous en studio.
Bonjour.
Après un passage tumultueux en France, non pas toi en tant que tel, mais...
mais dans un Paris qui brasse, mettons.
Tu es tombé dans un des moments les plus charniers, disons,
exact.
Des derniers mois.
L'actualité politique était effervescente en France.
Assurément.
Et elle continuera de l'être. On verra ce qui se passera samedi prochain avec les Gilets jaunes. Retourneront-ils manifester, mais...
Et là, tu débarques au Québec, puis l'actualité est tout aussi effervescente, puis toujours dans un moment très charnier. Roson, 14 plaignantes, une seule retenue, elle date de 1979.
Une seule retenue, deux accusations portées. C'est sûr que c'est décevant, tu sais, que bon, la justice criminelle, le fardeau de la preuve soit si lourd que ça envoie évidemment un très mauvais signal aux victimes, à toutes les victimes, tu sais, celles qui se posent la question, devrait-on dénoncer ou pas? En même temps, j'espère que les victimes qui ont dénoncé sur la place publique se raccrochent au fait que les dénonciations qu'elles ont faites s'inscrivent dans un mouvement qui est beaucoup plus grand, celui du « moi aussi », dont elles sont finalement les figures de proue, tu sais, puis que grâce à elles et à leurs actions sur la place publique, on aura levé le voile sur des situations inacceptables, provoqué d'autres dénonciations, probablement, dont on entend moins parler, généré des discussions dans les milieux, dans l'actualité aussi, sur les relations entre les hommes et les femmes, sur les agressions sexuelles en général, levé le voile sur plein de situations qui étaient inacceptables, mais qui étaient restées taboues. Puis aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'évolution dans les mœurs, dans les perceptions, dans notre discours autour de ça.
Ne serait-ce que le fait que ça a amené une discussion.
Exactement.
T'sais, ne serait-ce que d'abord cet aspect-là, d'avoir été forcé de par l'actualité puis de par ce qui s'est passé à en jaser.
Puis tu sais, je suis sûre qu'aujourd'hui, on est plus sensible, on est plus vigilant à ce qui se passe autour de nous, aux potentielles agressions. Mm-hmm. Puis je suis sûre que j'espère en fait que les agresseurs, les harceleurs potentiels, j'ose espérer... passe à l'acte peut-être un peu moins facilement.
C'est juste une impression, mais tu sais, pour l'agression, l'agresseur, je sais pas si ça fait une différence. L'harcèlement, probablement, et souhaitons-le. L'agresseur,
je sais pas. Mais si entre nous, on est déjà plus vigilant aux situations qui pourraient
potentiellement
dangereuses ou plus sensibles à des femmes qui pourraient se mettre en danger... Donc, tant mieux si on a évolué collectivement.
Puis, et parler plus de consentement encore.
Exactement, exactement. Puis tu sais, je pense que c'est ça qu'il faut reconnaître à ces femmes-là comme geste qu'elles ont posé, le fait qu'elles font évoluer vitesse grand V nos sociétés. Puis tant qu'à faire, là, arrêtons-nous pas en si bon chemin. T'sais. Là, on constate que notre système de justice est probablement pas très bien adapté. Évidemment, on espère que les accusations qui sont portées envers Gilbert Roson vont se conclure par une condamnation, mais on ne le sait pas. Puis espérons que les 13 victimes qui n'ont pas pu voir leurs accusations retenues vont se regrouper autour de celle qui va traverser un procès, puis ça va probablement être épouvantable. Il y a la poursuite au civil. Puis au-delà de tout ça, on peut-tu poursuivre le travail sur un tribunal spécialisé, mais un vrai travail sérieux de nos législateurs sur comment est-ce qu'on peut améliorer le système judiciaire. Oui, peut-être qu'il a certaines failles. Peut-être qu'on peut en faire une discussion raisonnable, une discussion de fond, tu sais, un peu comme on a fait avec les soins de fin de vie puis l'aide médicale à mourir. Qu'on peut sortir de la partisanerie, réunir des gens autour de cette question-là et voir comment est-ce qu'on peut concrètement améliorer le système de justice pour rendre
sommes
les dénonciations.
C'est vrai, mais la seule question que je me demande, c'est sommes-nous trop prêts? Tu sais, le mouvement a été lancé plus fortement il y a à peu près un an. Est-ce qu'on a été capable de tasser l'émotivité?
Mais tu vois, moi, je pense que c'est justement une grande commission parlementaire où on réunit des gens qui ont une expertise là-dessus, peut-être une tournée dans les régions.
Parce que la dernière des choses que tu veux, c'est une certaine émotivité. Il faut prendre, comme tu le dis, un certain recul.
Mais moi, en contrepartie, ce qui m'inquiéterait, c'est que ça s'essouffle, c'est que ça ralentisse et que soudainement,
ça
la préoccupation soit plus aussi importante. Mm-hmm. Là, on est dedans. Réunissons-nous. Faisons un travail sans partisanerie. Puis essayons de faire en sorte qu'il y ait un réel progrès au profit d'une justice plus
équitable pour tout le monde et plus,
exactement.
Et plus efficace.
Puis au profit des... Pour faire en sorte que... Peut-être qu'il y a moins de victimes, mais aussi que dans l'avenir, les victimes se sentent plus en confiance de faire appel au système de justice quand ça leur arrive.
Et ça demande le même principe. Les coupables, les vrais, on les veut en prison. Et si t'es pas coupable, t'es pas coupable.
Absolument. T'sais,
l'idée n'est pas nécessairement de condamner plus de monde, c'est de condamner les gens qui sont réellement coupables.
Exactement. Et
pas consentir alors que tu sais pertinemment que tu as quelque chose à te reprocher.
Et surtout d'assurer aussi une confiance. Que les victimes aient confiance qu'elles peuvent avoir justice en s'adressant au système.
Si c'est leur avenue, si c'est leur avenue, on en parlait hier avec le CALACS, puis la représentante du CALACS Estrie nous disait, vous savez, c'est pas pour tout le monde. Et ce n'est pas réparateur pour tout le monde. Pour certaines, passer au travers ce processus-là, c'est long, c'est lourd. Et en bout de ligne, qu'ils soient condamnés ou non, ça ne provoque pas la réparation espérée.
Mais peut-être que pour les 13 personnes qui ont dénoncé et pour lesquelles il n'y aura pas de procès, peut-être, oui, sauf qu'en même temps, peut-être que si on poursuivait la discussion et qu'on avait des améliorations concrètes, ce serait réparateur pour elles de s'être imposé de traverser ça publiquement.
La ministre Bibeau, hier, députée de Compton-Stanstead, on parlait avec elle de l'aéroport parce que c'est un autre ministre, celui-là provincial, qui débarquait dans le coin. M. Bonnardel, qui a dit, écoutez, ça n'a pas de sens. Le fédéral vous a oublié. Sherbrooke, là, on vous le dit, vous avez été oublié. Et Mme Bibeau, sur nos ondes, s'est défendue en disant, moi, je peux rien faire de plus. La balle est dans le camp de l'administration locale. Et je lui ai demandé de spécifier. Elle m'a mentionné que c'était le maire.
Ouais, ce que je trouve incroyable ici, c'est que tu dis la ministre et députée. C'est comme si elle avait eu à choisir entre ministre et député, puis elle a choisi ministre. Puis bien au-delà de ça, elle n'a même pas choisi ministre avec un leadership politique. Elle a carrément choisi porte-parole du gouvernement. Donc, ce qu'on a entendu hier, moi, ça m'a fait un peu sursauter. D'abord, il y a eu un engagement clair en campagne électorale des libéraux de faire avancer ce dossier-là.
Et de sa part à elle aussi.
Et de sa part à elle, effectivement, c'est dans son comté. Elle parle de leadership local, mais c'est comme si elle s'excluait elle-même de ce leadership politique local. Mais c'est parce qu'elle est députée d'une circonscription ici. C'est pour ses concitoyens que ce projet d'aéroport-là doit être construit, puis c'est à leur bénéfice qu'il faut le faire avancer. Puis là, la situation, tu sais, l'Administration canadienne de la Sûreté des transports aériens, là, c'est une société d'État. Hein? Donc, elle relève, oui, il y a un conseil d'administration, elle est indépendante, mais elle relève tout de même du gouvernement fédéral et les décisions qu'elle prend ont un impact pour nous. Si c'est 600 à 700 000 $ par année, comme la Chambre de commerce le prétend, comment ça se fait que le fédéral n'est pas prêt à faire cette contribution-là par l'entremise de l'administration pour donner un signal à des transporteurs privés qu'on y tient à ce projet-là puis qu'on veut? À place, le gouvernement fédéral se retire puis dit « Si vous trouvez un transporteur, peut-être éventuellement qu'on aura la désignation officielle. »
On cherche là, l'impulsion inverse, mais dans la dynamique actuelle, l'impulsion, là, elle ne viendra pas.
Ben non, parce que là, on dit aux transporteurs, on envoie un signal qu'on ne croit pas nécessairement en ce projet-là, puis que le risque doit être porté par le transporteur et par les autorités locales dont elle s'exclut, tu sais. Mm-hmm. Moi, ce que j'attends d'elle, là, c'est deux choses. Un, qu'elle joue son rôle de députée puis de ministre à l'intérieur du gouvernement, c'est-à-dire elle a, le gouvernement a le pouvoir de changer les règles pour faire en sorte que la désignation puisse être donnée puis qu'on puisse, d'une certaine façon, supporter clairement ce projet-là, un. Puis deux, si elle pense qu'il manque de leadership régional, là, elle est députée dans cette circonscription-là, qu'elle exerce ce leadership-là, qu'elle mette autour de la table M. Bonnardel, le maire de Sherbrooke, puis qu'ils travaillent tous ensemble à en trouver un transporteur aérien puis qu'ils se présentent ensemble pour essayer de l'avoir, cette entente-là. Oui, c'est la ville qu'il faut qu'il la signe, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas contribuer de façon constructive à trouver un transporteur au lieu de rejeter ça exclusivement sur les épaules de M. Lucie et de s'en laver les mains.
Merci beaucoup d'être passé ce matin, Isabelle.
Merci, à demain.
On se retrouve demain.